Et avec Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien du 7-9 la ministre de la Santé et des Solidarités. Vos questions au standard, amis auditeurs. Vous avez la parole dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Agnès Buzyn, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro. Avant d'en venir à la réforme des retraites en elle-même et au mouvement de colère que traverse l'hôpital, une réaction à la démission de Jean-Paul Delevoye qui pilotait, négociait la réforme des retraites. Il était mis en cause pour des activités et des mandats non déclarés auprès de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Vous disiez il y a peu encore que c'était un homme sincère, un homme de bonne foi. Est-ce qu'il a bien fait de quitter son poste ?
Écoutez, il a commis des erreurs, il en a pris, il en a tiré toutes les conséquences, il a pris ses responsabilités, il part dignement et je souhaiterais maintenant que nous puissions parler du fond en réalité, puisqu'il a mené à bien un très gros travail. Le rapport qu'il a fourni au mois de juillet est loué par les organisations syndicales. Le travail de concertation a été salué également. Et donc, maintenant, il faut qu'on passe sur le fond à bien expliquer la réforme.
On va y passer dans un instant, mais justement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que la réforme, le cas de Jean-Paul Delevoye, il a été plébiscité par l'ensemble des forces syndicales, même ceux qui sont contre le projet, en disant c'était le bon interlocuteur, il connaissait ses dossiers. Est-ce que son absence aujourd'hui pour porter ce texte ne fragilise pas la réforme ?
Eh bien, nous allons, vous le savez, nous cherchons un successeur à Jean-Paul Delevoye pour qu'il porte la réforme qui a été prévue. Et nous cherchons quelqu'un qui, évidemment, connaisse bien le dossier de façon à s'approprier assez rapidement ce travail nécessaire avec les syndicats et que cette personne soit capable de porter la réforme devant l'Assemblée nationale au Parlement.
Et ce ne sera pas vous ?
C'est avec moi, puisque je suis en charge de ce dossier. Jean-Paul Delevoye travaillait avec moi, et donc la personne qui sera nommée de nouveau avec moi. Et donc je porte évidemment cette réforme, j'en suis tout à fait, je me sens en responsabilité, mais je pense que d'avoir quelqu'un à mes côtés pour faire aussi ce travail au banc, c'est-à-dire au Parlement, est tout à fait nécessaire.
Mais la réforme des retraites reste au ministère de la Santé, parce qu'on entend ce matin que ça pourrait basculer à Bercy, si jamais Gérald Darmanin récupérait le dossier. Ça reste, vous nous le dites ce matin, au ministère de la Santé, cette réforme.
Ça reste au ministère de la Santé, bien sûr, et parce que c'est une réforme sociétale, c'est une réforme de solidarité, et donc elle est intimement liée, évidemment, avec l'ensemble des dossiers que je porte autour du vieillissement, des familles, et donc c'est une réforme pour nos enfants, et je trouve que le ministère des Solidarités est le mieux placé pour la porter.
Encore un mot, Agnès Buzyn. Jean-Paul Delevoye, donc, on en parlait à l'instant, Sylvie Goulard, François Bayrou, Richard Ferrand et d'autres. Les situations ne sont pas les mêmes, mais si on vous dit, Agnès Buzyn, que, au fond, le nouveau monde ressemble beaucoup à l'ancien, vous répondez quoi ?
Je connaissais peu l'ancien, donc
au moins comme citoyenne et téléspectatrice.
Non, comme citoyenne. Moi, je pense qu'il faut impérativement que nous soyons irréprochables. Je pense que c'est important que les citoyens aient confiance dans leurs hommes et femmes politiques. Cela étant dit, beaucoup des affaires qui sont reprochées aux uns et aux autres n'ont pas été jugées. Et donc aujourd'hui, on traite les gens comme s'ils étaient coupables. Alors ils ont pris aussi leurs responsabilités, ils sont partis du gouvernement, mais énormément d'affaires ne sont pas jugées et ces personnes seront possiblement tout à fait blanchi.
Allez, venons-en donc à la réforme des retraites. Le gouvernement et les syndicats sont en boucle depuis une semaine. Chacun campe sur ses positions. Alors, Agnès Buzyn, n'est-ce pas maintenant de la responsabilité du gouvernement de débloquer la situation et de permettre, notamment aux Français, de fêter Noël en famille et dans de bonnes conditions ?
C'est de la responsabilité de tous. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans notre capacité collective. Je parle des partenaires sociaux et du gouvernement à dialoguer et à trouver une voie de sortie qui permette cette trêve. Cette trêve est indispensable. Les Français ont besoin de se reposer. Je suis inquiète de l'état d'exaspération et de fatigue, notamment en région parisienne. Je veux d'ailleurs dire un mot au personnel soignant qui, eux, ne peuvent pas faire autrement que de venir à l'hôpital s'occuper des malades et qui fournissent un effort supplémentaire par rapport aux difficultés que connaissent l'hôpital aujourd'hui. Et donc, chapeau, parce que beaucoup d'entre eux partent très très tôt le matin pour être à l'heure. Et donc, il est nécessaire que nous arrivions à un accord accord. Et de toutes les façons, il est impératif que les Français soient tranquilles pour les fêtes de Noël et qu'on les laisse fêter les Noël en famille.
Oui, alors c'est ça dépend beaucoup. Oui, c'est très bien. Tout le monde le souhaite, mais ça dépend beaucoup de vous. Vous dites que ça dépend de tout le monde, mais ça dépend surtout du gouvernement. Beaucoup du gouvernement, de votre capacité à négocier. Laurent Berger, ce matin, le répète clairement dans La Croix. L'âge pivot, c'est non. L'âge pivot à 64 ans, c'est une verrue, un plombage. Plombage de la réforme, dit-il. Il dit que c'est une hausse déguisée de l'âge légal minimum de 62 à 64 ans. Il propose une hausse des cotisations ou le fait d'aller puiser dans les réserves des régimes excédentaires pour revenir à l'équilibre. Est-ce que l'une de ces deux propositions vous semble bonne ?
Écoutez, il les fera demain puisque nous rencontrons les partenaires sociaux demain après-midi avec le Premier ministre et jeudi également. Donc nous aurons l'occasion évidemment de négocier, de concerter, de négocier à partir de demain avec eux. Donc je ne vais pas évidemment commenter plus que cela pour l'instant. Laurent Berger d'abord souhaite la trêve de Noël et ça n'empêche pas de concerter. De dire qu'on fait une pause n'empêche pas de négocier et de concerter. Donc il est impératif que les syndicats prennent leurs responsabilités et relâchent cette pression parce que de toute façon ça ne peut pas être, comme le demande la CGT, un retrait complet de la réforme. Mmh. Personne ne le comprendrait. C'est une forme de chantage qui est au-delà de ce que peut entendre un gouvernement, parce qu'un gouvernement est là pour gouverner, il a été élu, le président a été élu sur cette réforme qui était dans son programme. Beaucoup de Français comprennent l'intérêt de cette réforme pour leurs enfants. Ils savent que ça donnera lieu à un régime plus robuste, plus juste et plus simple.
Mmh. Et donc, pour l'instant, ils ne le savent pas, hein, Agnès Buzyn, on ne va pas se mentir. Le niveau d'inquiétude des Français et d'incompréhension est total.
À l'échelon individuel. À l'échelon individuel, les gens sont inquiets pour leur propre retraite. Pour autant, ils commencent à concevoir que le format général de la réforme est un format de justice sociale et qu'il va permettre à des gens qui ne sont pas représentés par des syndicats, je pense notamment aux femmes, on en parle beaucoup, mais c'est une réalité. Les femmes seules avec enfants, aujourd'hui, les familles monoparentales, c'est plus de 2 millions de familles. Eh bien, aujourd'hui, elles ont souvent des carrières très hachées. Elles n'ont pas de bonus lors du premier ou du deuxième enfant. Cette réforme, elle leur est favorable. Mmh. Il n'y a aucun syndicat pour les défendre. Je pense aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont été les oubliés des politiques publiques depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, cette réforme, elle est aussi pour eux, avec le minimum contributif à 1 000 euros.
Agnès
Buzyn. Ils savent évidemment l'intérêt que ça peut avoir pour eux.
Je vous repose la question que vous posez, Léa, à l'instant. Quand Laurent Berger dit hausse de cotisation ou aller puiser ponctuellement dans les réserves des régimes excédentaires, est-ce que vous entendez, est-ce que vous récusez on peut pas simplement dire, on verra sur
alors,
le...
Je vais rentrer dans les détails.
Alors voilà, vous dites oui ou non à ça?
Vous voyez bien que c'est ça qui bloque, là. C'est-à-dire la CFDT est dans la rue aujourd'hui.
On va discuter évidemment avec Laurent Berger parce que beaucoup de sujets sont sur la table et des sujets qui sont très importants pour la CFDT,
mais cela...
comme le sujet de la pénibilité.
Cela...
Il fait des propositions. Le gouvernement pense qu'il ne faut pas baisser le pouvoir d'achat, ni des retraités, ni des gens qui travaillent aujourd'hui. C'est pour ça qu'une hausse des cotisations sociales baisserait le pouvoir d'achat des actifs.
Donc exit.
Ça n'est pas évidemment ce que souhaitent la plupart des Français qui travaillent d'ailleurs. Alors après, Laurent Berger peut souhaiter une augmentation des cotisations patronales. Mais là, nous savons que ça renchérirait le coût du travail, nous perdrions en compétitivité, et donc tout le travail que nous faisons aujourd'hui pour réduire le chômage, qui est aussi très important pour équilibrer notre système de retraite, nous avons besoin de gens actifs, et donc nous voyons bien que c'est un jeu de vases communicants sur lequel on doit être extrêmement attentif.
Vous nous dites ce matin... Ni la hausse des cotisations sociales, ni la hausse des cotisations patronales ne sont une bonne idée.
Non, j'explique aujourd'hui les risques que l'on encourt. Et puis, puiser dans les réserves. Je rappelle que les réserves, aujourd'hui, dans le régime général, permettent de couvrir un an ou deux de déséquilibre. Je rappelle que le déséquilibre potentiel est autour de 10 milliards par an. Les réserves sont autour de 30 milliards. Donc, même si on utilisait les réserves, en plus, il ne faut pas tout utiliser. Les réserves, elles servent à contrecarrer un coup dur démographique, un coup dur financier, et donc on est obligé de garder des réserves dans un système de retraite, eh bien on voit bien que ça réglerait le problème pour un an ou pour deux ans. Donc nous avons besoin
de Laurent Berger, si Laurent Berger écoutait ce matin, je sais qu'il écoute souvent cette matinale, vous lui dites, en gros, vos deux idées sont pas bonnes.
Non, j'explique aux Français pourquoi elles pose aujourd'hui des questions et pourquoi ça n'a pas été le choix du gouvernement, sachant que ce que nous avons proposé aux partenaires sociaux dans la réforme, c'est qu'ils soient en charge de la gouvernance, qu'ils nous fassent et qu'ils s'emparent de ce dossier de l'équilibre financier.
Ils disent chiche, mais si on nous dit quoi faire avant même qu'on ait commencé à travailler donc, ou à être installé, c'est le jeu est faussé.
Donc nous en discuterons demain. Aujourd'hui, ce qu'a fait le gouvernement, c'est un choix par défaut entre guillemets, c'est-à-dire qu'il inscrira dans la loi par défaut une façon d'équilibrer le système. Et si les partenaires sociaux se mettent d'accord dans la gouvernance pour une autre façon d'aboutir à l'équilibre, eh bien, évidemment, cette mesure par défaut...
Ça veut dire de dire par défaut. C'est-à-dire que vous gouvernez, on a l'impression que depuis deux mois, vous êtes dans l'improvisation.
Non,
vous dites,
au contraire. Au contraire, si, c'est prendre ses responsabilités.
Vous ajustez en permanence, vous dites, on va faire l'âge pivot jusqu'à 64 ans, mais c'est par défaut.
Non,
comment
contraire.
On vend une réforme en disant c'est par défaut? On a l'impression que vous peignez un tableau impressionniste.
C'est exactement exactement le contraire, Madame Salamé. Exactement le contraire. Ce qui aurait été simple, c'est de dire, il faut un équilibre, on laisse tout aux partenaires sociaux, et puis on verra s'ils arrivent à se mettre d'accord, et on espère qu'ils se mettent d'accord et que ce soit un équilibre atteint en 2025. Et on prend le risque de laisser une dette à nos enfants. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on laisse les partenaires sociaux trouver une solution, mais que de toutes les façons, même si les partenaires sociaux n'arrivent pas à un accord, le gouvernement prend ses responsabilités, sa responsabilité, c'est de ne pas laisser de dette à nos enfants, et ça, effectivement, ça fait partie intrinsèquement de la réforme. L'équilibre, je le rappelle, Madame Salamé, n'est pas un objectif en soi. C'est un moyen de faire cette réforme, parce que cette réforme, elle apporte des droits nouveaux. Mmh. Des droits nouveaux, notamment les minimums contributifs à 1000 euros pour toutes les carrières complètes. C'est énorme, c'est très attendu. Des droits nouveaux pour les femmes, pour les familles. Et donc ça nécessite évidemment qu'on le finance.
Ce serait un échec ou un recul de dire on oublie les 64 ans, on a bien compris que ça bloquait tout, on passe à autre chose.
Écoutez, nous verrons demain avec les partenaires sociaux. Je ne souhaite pas qu'il y ait des gagnants et des perdants dans cette négociation. Je pense qu'il est très important, parce qu'il est important d'apaiser aujourd'hui et de rassurer les Français, il est important que tout le monde sorte gagnant de cette négociation. En tous les cas, c'est comme ça que je l'aborderai, parce que aujourd'hui, ce qui compte, c'est que les Français sachent que cette réforme est bien pour eux, bien pour leurs enfants, qu'elle est redistributive et que...
Comment vous avez fait, Agnès Buzyn, pour transformer ce que vous venez de dire, une réforme que vous décrivez comme juste, équitable, lisible, en un texte qui fait désormais la quasi-unanimité syndicale contre lui? Qu'est-ce que vous avez raté?
Alors, ça n'est pas du tout une quasi-unanimité syndicale. Nous avons deux syndicats, FO et la CGT, qui ne veulent pas d'une réforme par point et d'une retraite par point. Ils sont contre la réforme. Et vous avez au contraire trois syndicats réformistes, la CFDT, l'UNSA, la CFTC, qui adhère complètement. Ils sont dans la rue sur l'âge pivot. Ils ne sont absolument pas dans la rue sur la réforme. La réforme, c'est la réforme dont la CFDT a toujours rêvé, qu'elle souhaite depuis plusieurs, depuis 2003 ou 2004. Et donc, en réalité, le contenu de cette réforme convient aux syndicats réformistes.
Est-ce un secret de dire que vous êtes contre, vous, à titre personnel, l'âge pivot, à 64 ans?
Moi, je suis pour dire la vérité aux Français, Madame Salamé, et je suis persuadée que il nous faudra travailler plus longtemps. Je crois que tous ceux qui disent aux Français qu'on va revenir à la retraite à 60 ans mentent aux Français. Aujourd'hui, je rappelle que l'âge moyen de départ à la retraite déjà en France, c'est 63,5 ans. Et donc, ce que nous disent la plupart des syndicats, c'est qu'en réalité, avec les réformes antérieures qui augmentent le nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein, des réformes qui ont été votées dans le quinquennat précédent, eh bien, en réalité, tout le monde sait que l'âge pivot sera atteint dans 5 ans pour la majorité des retraités du secteur
du régime général. Donc, je me trompe, vous y êtes favorable.
Donc, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, de toute façon, on l'aurait atteint, et donc ça n'est pas la peine de le mettre dans la loi. Et nous disons, on dit la vérité aux Français, et donc ce que tout le monde sait, c'est que en fait, de toute façon, l'augmentation du nombre de trimestres requis pour partir à taux plein aboutirait à un âge pivot à 64 ans, et pour beaucoup à 67 ans, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes travaillent jusqu'à 67 ans pour aboutir au taux plein, eh bien en réalité, nous mettons dans la loi que on s'arrêtera à 64 ans, qu'il n'y aura plus de décote après 64 ans. C'est énorme. Pour les 20% des femmes qui travaillent jusqu'à 67 ans, il n'y aura plus de décote à partir de 64 ans. Et donc, il y a un bonus dans cette réforme.
Il y aura une décote entre 62 et 64.
Oui, mais il n'y aura plus de décote après 64. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui aujourd'hui.
Les questions d'auditeurs avant de parler de l'hôpital.
Oui, on ouvre même le chapitre de l'hôpital avec effectivement, Léa, un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices au standard. Catherine, bonjour.
Bonjour, je suis donc infirmière, infirmière saisiste en centre hospitalier. J'ai exercé pendant 43 ans, je voulais dire, avec passion. Mais évidemment, j'ai constaté un certain nombre d'éléments très, très délétères. Madame la ministre.
Bonjour madame.
Bonjour madame, tous mes respects.
Moi aussi.
Allez-y.
Que comptez-vous faire pour améliorer l'organisation et la qualité de tous les soins à l'hôpital public ? Que comptez-vous faire pour donner un sens à l'engagement du personnel soignant, tout confondu, face notamment au management, parfois délétère, de la direction en général?
Merci Catherine, je vous entends en colère, je vous entends émue aussi.
Oui, les deux, parce que j'ai déjà appelé plusieurs fois et Madame Buzyn a reçu de ma part et de la part d'un délégué syndical qui m'a soutenue une affaire tout à fait dramatique. Dans laquelle j'ai déclaré des maltraitances volontaires de la part de collègues, et notamment délégués syndicaux. Et évidemment, j'ai été éjectée de mon poste. On a appelé ma famille, on m'a fait passer pour une malade psychiatrique. Et cela perdure.
Merci Catherine, merci Catherine pour votre question et pour ce témoignage. Agnès Buzyn vous répond.
Alors oui, on sent beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et de colère chez les soignants aujourd'hui. Et évidemment, je comprends. Je le comprends parce que j'ai beaucoup vécu avec eux. Et j'ai vu cette dégradation au fur et à mesure que les années se sont écoulées, notamment les 10 dernières années à l'hôpital, avec une baisse des budgets qui a abouti à une contraction du personnel soignant et à une diminution des investissements. Donc aujourd'hui, mon but, il est triple. D'abord, c'est de réinvestir dans l'hôpital public, de redonner aux soignants du matériel qui fonctionne, une qualité de vie au travail qui leur permette déjà d'être respectés, des locaux qui leur conviennent, et donc redonner des financements dédiés à leur quotidien, faire en sorte qu'ils aient du matériel tous les jours pour travailler de qualité. Ensuite, il faut qu'on soit capable de reconnaître l'investissement et l'engagement des personnels. Et pour cela, nous avons mis en place un budget dédié à énormément de primes différentes qui vont permettre d'accompagner les personnels quand ils travaillent plus, quand ils ont par exemple des conditions de travail particulièrement dégradées, quand ils travaillent sur deux sites, etc. Ensuite, je reprends la dette des hôpitaux parce que ça va permettre aux hôpitaux de réinvestir dans des projets, de recruter du personnel, de réouvrir des lits. Ils ont besoin de cela et ça, je l'ai entendu. Enfin, sur le management, il est impératif de redonner du sens au management de proximité dans les services, qu'il y ait de nouveau des surveillantes qui soient au contact des soignants et notamment des infirmières, et que les services aient toute leur place dans la gouvernance.
Retour au standard, toujours sur l'hôpital. Florian est en ligne, bonjour.
Bonjour.
On me dit au casque que vous êtes urgentiste.
Alors je suis urgentiste sur Nantes et Saint-Nazaire. Madame Buzyn, bonjour.
Bonjour.
Ça fait maintenant 9 mois qu'on est mobilisé. Vous avez commencé par un premier plan à 70 millions, puis 750 millions. Et puis, vous avez annoncé fièrement 10 milliards le 20 novembre dernier. Madame Buzyn, vous savez, on a tous compris que c'était que du transfert de fonds et que vous maintenez un ONDAM contraint à 2,4%. Madame Buzyn, ça fait 10 ans que les hôpitaux sous son contrainte budgétaire. Vous avez annoncé, quand vous avez pris votre poste, vouloir sauver le joyau de la République, que sont les hôpitaux français. Aujourd'hui, les hôpitaux sont à nouveau dans la rue, puisqu'on a bien compris que vos annonces, dont vous êtes si fiers, de toute façon, ne régleront aucun problème, puisque notre problème, il est systémique. Il y a un an et demi, à votre place, il y avait un ministre qui s'appelait Nicolas Hulot, qui a bien compris qu'il ne pourrait pas faire ce pour quoi il avait été mis à son ministère. Madame Buzyn, aujourd'hui, vous êtes devant le même problème. Vous ne pouvez pas répondre et vous ne pourrez absolument pas sauver les hôpitaux publics avec le gouvernement auquel vous appartenez. Qu'attendez-vous, Madame Buzyn? Qu'attendez-vous pour démissionner?
Merci Florian pour cette question. Agnès Buzyn vous répond.
Je pense que je suis la personne la mieux placée pour aujourd'hui redonner du sens à l'hôpital public. Je pense d'abord que je me bats pour l'hôpital public, que je suis la première ministre depuis 10 ans qui ait réaugmenté les tarifs et qui ait redonné des budgets à l'hôpital public, et que je me suis engagée pour les 3 ans qui viennent, à avoir ce qu'on appelle des tarifs en hausse, c'est-à-dire des budgets en hausse pour tous les hôpitaux. La reprise de la dette, c'était absolument impossible. Tout le monde disait que c'était impossible techniquement. Nous avons réussi à ancrer dans les mesures que nous avons prises cette reprise de la dette de 10 milliards d'euros. C'est énorme. Aujourd'hui, quand je me déplace dans les hôpitaux et qu'ils me montrent leur budget, on voit que tout ce qu'ils gagnent au quotidien part dans les banques pour remplacer, pour rembourser des dettes qui ont été, en fait, créées par la baisse successive des tarifs depuis 10 ans. Moi, j'en veux beaucoup à mes prédécesseurs d'avoir, et de m'avoir laissé l'hôpital dans cet état-là. Je les ai vus faire. Je suis extrêmement en colère, mais je pense que je suis la mieux placée parce que je veux du bien aux hôpitaux. Je veux sauver l'hôpital
public.
Mais
alors, pourquoi ça, pardon? D'un regard extérieur, vous êtes effectivement, vous avez fait votre carrière à l'hôpital public, on entend l'auditeur.
Florian.
Florian, pourquoi ça ne marche pas, Madame la Ministre? Vous avez présenté un plan avant l'été, vous avez présenté un plan après l'été. Non, ça a été élargi, oui. Puisque vous avez touché la dette après l'été, la reprise partielle de la dette des hôpitaux. Ça ne marche pas, ils sont toujours dans la rue. Il y a 660 chefs de service qui ont menacé de démissionner dans une lettre, dans une tribune au journal du dimanche, en disant que l'hôpital se meurt, que vous lui administrez des soins palliatifs. Ils disent que le véritable ministère de la Santé, c'est à Bercy et pas chez vous, à la Santé. Pourquoi? Enfin, je veux dire, ils sont jamais contents. Vous dites quoi? C'est des ingrats, je leur donne et ils comprennent
pas. Non, pas du tout. Moi, vous comprenez que pour renverser la tendance, il faut du temps. Il faut un peu de temps. Et ils n'en peuvent plus. Et je l'entends. Et donc, l'urgence pour moi, c'est que les crédits arrivent. L'urgence pour moi, c'est qu'ils voient qu'on peut recruter des infirmières. L'urgence pour moi, c'est qu'ils puissent acheter le matériel dont ils ont besoin. C'est ça l'urgence.
C'est-à-dire l'urgence pour eux, c'est l'augmentation de salaire que vous ne donnez pas. Les 300 euros que vous ne donnez pas, vous répondez des primes pour les Parisiens.
Alors, soyons clairs, on augmentait l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire 1 200 000 personnes, la totalité des crédits, ce qu'on appelle l'ONDAM, des crédits de la santé à l'hôpital, irait vers ces augmentations de salaire. Or, les hôpitaux ont besoin d'investir. On a besoin de rénover les hôpitaux, de reconstruire des services, on a besoin d'ouvrir les lits, on a besoin de recruter du personnel, on a besoin d'acheter des robots chirurgicaux, on a besoin d'acheter du matériel qui fonctionne pour donner envie aux gens
pourquoi
de rester.
Pourquoi n'avoir donc, pas annoncé l'ouverture des lits? Par exemple, dans le grand plan qu'Edouard Philippe a annoncé avec vous. Non, il n'y a pas d'ouverture des lits, il n'y a pas d'ouverture chiffrée.
Mais à quoi sert de l'argent? À votre avis, à quoi sert de l'argent? L'argent, il sert à acheter du matériel, à recruter des gens, ouvrir des lits. C'est pas juste acheter des lits et ouvrir des salles. Il faut des infirmières et des médecins. Des médecins, on n'en a pas beaucoup. Des infirmiers ou des infirmières, il faut les recruter. L'argent sert à ça. Alors, je n'ai pas dit ça va ouvrir X lits. J'ai dit, je reprends 10 milliards d'euros de dette. 10 milliards, ça va donner à tous les hôpitaux français entre 800 millions et 900 millions d'euros par an pour réinvestir en plus de tout ce que j'ai mis, c'est-à-dire 1,5 milliard sur 3 ans. J'ai mis 150 millions dès aujourd'hui pour acheter du matériel tous les ans pendant 3 ans. Donc, en réalité, ce qui leur manque, c'est de voir la concrétisation de cette somme. Ces sommes, c'est abstrait. Moi, ce que je veux...
Ils la verront quand, la concrétisation? Dans 6 mois?
Alors,
dans
moi,
un
j'ai
an
demandé au directeur d'hôpitaux, déjà, d'animer dans les services, de me faire remonter tout ce dont ils ont besoin au quotidien, des appareils d'échographie, des brancards qui roulent, la rénovation de telle ou telle salle. Ça, c'est urgent, je les veux pour la fin de l'année. D'ailleurs, j'aurai une réunion avec les fédérations hospitalières cette semaine. Je veux pour la fin de l'année que tout me remonte, qu'on puisse, dès le mois de janvier, délivrer, c'est-à-dire faire des chèques pour acheter ce dont ils ont besoin. L'argent qui est prévu dans l'ONDAM, c'est-à-dire qui a été voté dans le budget de la Sécurité sociale, il sera disponible à partir du mois de janvier. Les crédits sont en hausse. J'ai redonner tout ce qu'on avait gelé, c'est-à-dire 415 millions d'euros que j'ai redonné au mois de novembre. Alors on me dira, c'est normal, c'est un dû, le gel, c'est ce qu'on met en réserve au cas où les budgets seraient dépassés, c'est normal de le rendre. Eh bien oui, c'est normal, ils ont raison, c'est normal, sauf que personne ne l'avait fait avant moi. Ça fait 10 ans que le gel n'est jamais rendu aux hôpitaux publics et je suis la première ministre à dégeler la totalité.
Vous en avez un peu ras-le-bol?
Non, je me bats, je suis auprès de toute ma famille travaille à l'hôpital public, mes enfants, mon mari, toute ma famille. Je sais pourquoi je me bats, je sais, je suis venue pour cela.
Jean-François est au standard, on repasse, si je ne m'abuse, à la question des retraites. Bonjour.
Allô?
Oui, Jean-François, bonjour. On vous écoute.
Ma question est simple. D'abord, bonjour Madame la Ministre, bonjour. Et bonjour à toute l'équipe
bonjour
de la matinale. Voilà. Depuis longtemps, je pense que cette réforme, c'est pour privatiser les retraites. Et avant le départ de M. Delevoye, on a entendu les assureurs se féliciter. Je voudrais une réponse, Madame la Ministre.
Merci Jean-François pour cette question qui revient très souvent au Standard et sur l'application de France Inter. Agnès Buzyn.
En réalité, c'est l'inverse. Je pense que c'est une réforme inouïe. C'est-à-dire que je pense que personne ne pouvait imaginer, même Thomas Piketty, qui est, on le sait, un économiste très à gauche, pensait qu'on allait s'arrêter dans cette universalisation du système à deux plafonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire à des gens qui gagnent autour de 60 000 euros par an. Et en réalité, nous sommes montés à trois plafonds de la sécurité sociale, donc à des gens qui sont jusqu'à 120 000 euros par an. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les personnes qui ont un salaire qui va jusqu'à 10 000 euros par mois, c'est-à-dire quand même des salaires très conséquents, vont cotiser dans le système universel des retraites, qui est donc un système par répartition, par points, où les assureurs n'ont rien à voir. Et en réalité, les assurances sont complètement exclues du système jusqu'à 10 000 euros par mois. Alors pour des salaires bien au-dessus de 10 000 euros par mois, ça représente 2% des Français, ils auront une part de cotisation qui ne leur apportera aucun point à eux, ça sera une cotisation solidaire de 2,8% en plus de leur cotisation
jusqu'à 10 000
euros.
Oui, ce que critique vertement Thomas Piketty.
Non, c'est au-delà. Mais justement,
oui, bien sûr.
Au-dessus.
Non, bien sûr.
Et donc c'est
bien
une
sûr.
Cotisation
pour
solidaire.
Lui, c'est une...
Mais c'est pas assez pour lui.
Lui dit c'est pas assez.
Bah,
c'est
2,8% qu'il aurait fallu, c'est plus.
Bah, aujourd'hui, c'est à 2,3%, nous l'augmentons.
Oui, et donc, il en réalité, dit encore plus, il
mais
faudrait
c'est une
le
réforme,
faire encore plus.
Justement, c'est une réforme où les assureurs n'ont rien à voir. Ça n'est pas une réforme par capitalisation, c'est une réforme par répartition.
J'ai une petite question rapide. Vous avez reconnu il y a deux jours qu'il y avait en ce moment des opérations qui sont reportées d'une semaine ou de deux semaines à cause de la grève. De combien d'opérations parle-t-on ? Est-ce qu'il y en a des dizaines, des centaines qui sont reportées à l'hôpital à cause de la grève ? Est-ce que ça concerne les pathologies graves ? Est-ce que ça concerne les cancers ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ?
Alors, aujourd'hui, les remontées de terrain qui m'arrivent des hôpitaux, ce sont des hôpitaux essentiellement parisiens. En réalité, l'impact de la grève est réel. En région parisienne, les soignants ont beaucoup de mal à arriver à l'hôpital. Donc, c'est un report de tout ce qui est hospitalisation non urgente. Évidemment, les urgences sont traitées.
Merci, Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités. Ben, je vais y arriver, non, je vais pas y arriver, Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités. Agnès Buzyn, d'avoir été au micro de France Inter ce matin.